Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'infinité des possibilités de la vie et de New York, puisque nous recevons la figure de proue des lettres new-yorkaises. À New York, en effet, cet écrivain, à qui l'on doit aussi quelques films et de nombreuses traductions, vit et écrit à Park Slope, exactement, dans Brooklyn. À New York, il continue à bâtir une œuvre hantée par la littérature, travaillée par les vertiges. New York, une ville qui, de Moon Palace à Brooklyn Follies, continue à être le décor de ses personnages. Elle est encore au cœur de son nouveau roman 4-3-2-1, comme un compte à rebours qui paraît en cette rentrée de janvier. Bonjour Paul Auster.
Bonjour.
Vous publiez chez Actes Sud ce merveilleux nouveau roman 4-3-2-1, traduit de l'américain par Gérard Medal, et qui est aussi un audacieux pari romanesque. Et il semble couronner votre œuvre, ce roman. Il va nous donner l'occasion de plonger avec vous dans votre métier d'écrivain, qui est aussi un métier de vivre, comme disait l'autre. Ce livre, en effet, c'est 1019 pages, il est dense et rapide comme l'histoire. Il se déploie entre l'assassinat de Kennedy et la chute de Nixon, dans une Amérique où la question raciale et la guerre du Vietnam divisent violemment le pays. 4-3-2-1 reprend les thèmes qui ont marqué votre œuvre depuis votre trilogie new-yorkaise, la force du hasard ou du destin, je le disais, les incertitudes quant à l'identité, la place de la littérature aussi dans nos vies. D'ailleurs, comme souvent dans vos romans, le personnage principal ou le narrateur est un écrivain ou rêve de l'être, et il y a de nombreuses références à des auteurs comme Melville, comme Beckett, comme Dostoïevski, ce qui nous permet de creuser une sorte de subtile intertextualité entre Auster et finalement ces mentors littéraires que vous convoquez. Et puis, j'en oublie un, mais Borges aussi. J'ai l'impression que l'ombre de Borges plane sur ce livre.
J'ai jamais pensé à Borges. J'aime bien son travail, je l'ai lu, bien sûr. Mais lui, il a écrit des textes très courts et jamais des romans, avec une approche et une attitude, un ton qui est très très différent que le mien.
Je pense à la construction en fait du livre dont on va parler, mais,
oui, mais
emboîté, labyrinthique.
Je ne sais pas, ouais. Mais c'est pas quelqu'un à qui je pense.
Ouais.
Nabokov a dit une chose très intéressante sur lui, et moi je préfère Borges à Nabokov, hein. Et les deux peuvent être très drôles, mais Nabokov a dit sur Borges, c'est comme on approche un grand palais, un château merveilleux, et ça a l'air d'être le plus beau bâtiment du monde. Et puis, on arrive, on ouvre la porte, il n'y a rien derrière. C'est quelque chose sur une scène de théâtre, un faux bâtiment. Et peut-être il y a une certaine vérité dans ça. Borges provoque les pensées. C'est très stimulant et c'est très amusant aussi, mais c'est un peu mince, maigre.
Ah, vous trouvez Borges maigre? Oh, c'est
un drôle. Un peu, oui, oui.
Non, je disais Borges parce que, évidemment, 1020 pages, en quantité, on est loin de Borges. Mais il y a quand même ce qui rend...
Je vois ce que vous voulez dire, mais...
La construction, oui, on va en parler pour les auditeurs.
Je comprends, mais j'en suis pas certain non
vous
plus.
Vous n'êtes pas certain. Cette construction, c'est quoi? D'ailleurs, c'est aussi, là, on va voir si vous êtes toujours d'accord ou pas d'accord, mais je pensais aussi à Diderot et à Jacques le Fataliste et son maître. Ce roman est construit selon une question que nous posons tous. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tourné à gauche plutôt qu'à droite, si j'avais suivi cette fille ou si...
Oui.
Voilà.
Mais aussi, c'est... Là, vous parlez des choix personnels. Mais je crois que le livre plutôt insiste sur les circonstances sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Oui, bien sûr, les quatre Ferguson font des choix, mais je crois les choses les plus importantes sont déterminées par exemple, le niveau financier de la famille, où ils habitent, les choses qui arrivent de l'extérieur. Et comme ça, chacun de ces garçons cherche à se stabiliser dans une réalité qui change.
Alors, 4 Ferguson, je précise, puisque ce livre est construit, c'est la succession en fait de 4 récits qui nous relatent les différentes vies, qu'un narrateur unique imagine pour son personnage principal, qui s'appelle Archie Ferguson. Donc c'est vrai qu'il y a Ferguson 1, 2, 3 et 4. Oui. Chacun de ces Ferguson vit dans une banlieue différente du New Jersey. Tous sont amoureux de la très désirable Amy Schneiderman. Et il y a plein d'autres personnages qu'on retrouve finalement d'une histoire à l'autre. Alors, je parlais de Jacques le Fataliste et son maître parce qu'il y a plein de passages où il nous dit bah voilà, ils sont poursuivis par en sortant d'une auberge par les gens de l'auberge qui sont là furieux, et en fait ils sont pas poursuivis.
Diderot, ça, c'est un beau livre, je l'ai lu quand j'avais 18 ans, alors ça fait un long temps, mais c'est inspiré tout à fait par Tristram Shandy de Laurence Stern, un livre magnifique en anglais qui est à son tour inspiré par Don Quichotte, et toutes ces trois sont une sorte de trio de livres dans le même esprit, mais chaque dans une autre langue, une autre culture. Tous les trois sont des digressions sur les digressions, et des digressions sur les digressions sur les digressions.
Ça, c'est très borgésien, pardon, Paul Auster.
Oui, mais c'est pas borgésien, c'est Stern l'a fait au début du 18e siècle.
Et les écrivains font toujours ça, de toute façon, ils se reprennent. Oui. On varie sur le travail des autres, non? Vous n'êtes pas d'accord
quand
on
écrit? Mais là, moi, c'est drôle, mais je poursuis une ligne. Et je crois que mon livre, ce grand livre, n'est pas digressif. Ça va vite. Il y a un ton de narration, je crois, j'espère, qui accélère l'action. Et j'ai dit, bon, c'est un grand éléphant, ce livre, bien sûr. Mais j'espère un éléphant qui court vite. A swiftly moving elephant.
Alors, on a parlé de Ferguson 1, 2, 3 et 4. Pourquoi, finalement, avoir choisi seulement 4 possibles narratifs?
Ah, j'ai réfléchi. J'ai commencé d'abord avec 7. Et j'ai tout de suite compris que c'était trop. Puis, 5, c'était une idée. Mais aussi trop. Et 4 m'a plu. C'est un carré. Il y a les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 points cardinaux de l'espace. Et je crois que c'est pour ça que j'ai participé un peu dans le dessin graphique du livre aux États-Unis. Et je crois qu'on a gardé ça. Vous voyez chaque chapitre avec les chiffres.
C'est un carré.
C'est dans un carré. Mmh. Et des carrés sont un peu partout dans le dessin du livre.
Ça veut dire que c'est une forme, souvent, qui conditionne vos livres, Paul Auster?
Non,
on avait l'impression que c'était l'histoire,
jamais,
c'est la première fois.
Jamais. C'est la première fois que j'ai commencé avec une idée formelle. Mais ce qui est drôle, c'est que une demi-heure après avoir découvert cette idée de raconter la même vie dans les voies parallèles, tout de suite, j'ai trouvé mon petit garçon Ferguson, Archie, était là. C'était l'histoire de lui et pas d'un autre. Aussi, au début, je ne savais pas exactement ce que je faisais ou ce que je voudrais faire. Et j'ai commencé à écrire aveuglément. Et au début, je croyais peut-être je vais suivre les garçons jusqu'à la vieillesse, peut-être. Même la mort à un très grand âge. Mais petit à petit, j'ai découvert que non, ce livre, c'est une histoire du développement humain. Et c'est une histoire de l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, les 20 premières années d'une vie, qui sont, bien sûr, les plus mouvementées de notre existence. Hein. Imaginez, hein, on commence à rien, on ne peut rien pour soi. Et puis, après 20 ans, on est presque adulte.
Il y a la question du langage, la question aussi de la narration de soi aussi qui
et
apparaît.
C'est comme ça, il y a un chapitre qui est concentré sur les efforts de Ferguson II à apprendre à lire. Incroyable pas dans l'avenir pour ce garçon.
Est-ce qu'il faut voir une relation aussi avec votre âge, l'âge de l'écrivain qui, au fond... vous avez maintenant 70 ans, vous écrivez depuis des dizaines et des dizaines d'années, finalement de se tourner vers la jeunesse dans
c'est,
un mouvement...
C'est curieux. Je vois que vous êtes jeune et vous n'êtes pas arrivé à ce grand âge que j'ai. Maintenant, pour des raisons, je ne peux pas expliquer, après un certain temps, dans la vieillesse, on pense au passé beaucoup. on reprend la jeunesse et l'enfance. Les choses viennent qui étaient oubliées, enterrées pendant des années, et puis ces choses sont là encore. Je vois, par exemple, Siri Hustvedt, ma femme. Sa mère est toujours vivante. Elle va avoir, le mois prochain, 95 ans. Alors, elle perd la mémoire pour les choses immédiates. On peut parler avec elle, et 5 minutes après, elle dit, « Ah, qu'est-ce que vous avez dit ?» Mais elle peut vous raconter des histoires quand elle avait 7 ans. Avec des détails extraordinaires, des détails que Siri n'a jamais entendus avant. Et moi aussi, j'ai récupéré les choses que je croyais que c'était perdu. Bon, la chose intéressante à dire, c'est que avant d'écrire ce livre, j'ai écrit 2 livres de non-fiction, Chroniques d'hiver et Excursion dans la zone intérieure. En anglais, Winter Journal et Report from the Interior. Ce sont des livres autobiographiques, d'une certaine manière. Et c'était la première fois que j'ai vraiment examiné ma jeunesse et mon enfance. Et j'ai trouvé, comme j'ai dit, des choses que j'avais perdues. Et je crois que ces 2 livres ont laboré le terrain pour faire ce roman. Et sans les 2, le roman n'existera pas.
Est-ce à dire que le travail de l'écrivain aussi, peut-être à un certain moment de sa vie, est aussi une forme de réévaluation de sa propre vie, de ce qu'il a vécu, des événements, presque une façon de réhabiter à nouveau ces événements-là?
Ça peut être. Pas pour tout le monde. Chaque écrivain...
Non, mais je vous pose la question à vous.
Pour moi, oui, c'est possible. C'est que ce livre touche très proche à ma vie, à moi, mais c'est pas l'histoire de ma vie. Ce livre vient de ma vie, mais c'est pas sur ma vie, si je peux faire cette distinction.
Justement, qu'est-ce qui sépare un livre de souvenirs d'un roman nourri de ses souvenirs?
Bon, des livres autobiographiques que j'ai écrits, ce sont, je fais mon mieux de raconter la vérité, en guillemets, parce que la mémoire n'est pas parfaite, hein, mais je fais mon mieux de raconter ce qui est vraiment passé. Dans un roman, même si je tire un incident de ma vie à moi, dès que je le mets dans une fiction, ça devient fiction. C'est absorbé par le monde imaginaire. Mais il n'y a qu'un incident spécifique de ma vie qui est dans ce roman. C'était le match de basketball où j'étais dans ce match quand j'avais 14 ans. Nous, une équipe de jeunes blancs contre une équipe de jeunes noirs dans une gymnase à Newark, New Jersey. On a fait une triple prolongation, c'est ça le terme? Et on a gagné le match à la dernière seconde. Il y avait presque une émeute dans le gymnase. Mais au contraire du roman, personne ne m'a frappé. Quelqu'un frappe Ferguson dans le livre, mais dans l'actualité, non.
Vous avez déclaré dans une interview, « Je ne peux ni ne veux changer le monde en écrivant, mais cela seul donne un sens à ma vie. Le seul moyen que j'ai de refaire ma vie maintenant que sa fin approche, c'est d'en écrire des variantes. » Est-ce que c'est ça le vrai point de départ de 4-3-2-1, finalement, que tous ces choix qu'on a faits ou toutes les circonstances qui ont bercé ou orienté une vie, en faire un roman, en faire une fiction, vous permet de réexaminer aussi cette vie et presque de la rejouer? C'était le but des grands textes de Nietzsche aussi, de refaire sa vie.
Je ne sais pas si c'est si personnel que ça. J'ai toujours l'impression que j'emploie des faits ou des circonstances de ma vie à moi pour arriver à autre chose. C'est pas pour m'examiner. Moi, pour moi, c'est un sujet sans intérêt. Je m'ennuie de moi. C'est que je suis un sujet et je connais l'histoire de ce sujet mieux que les autres. Et parfois, je l'emploie pour arriver à autre but.
Alors quel était justement le but de ce livre qui met en place justement ces différents avatars d'un même personnage? Qu'est-ce que vous visiez littérairement avec cette. Est-ce que c'était ce carré parfait, cette forme originelle?
C'est... Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais une but précise. On est saisi par les histoires, par les personnages. Et je trouve ce livre, c'est une sorte de forme de danse. C'est une pièce de musique, presque, avec ces longues phrases qui tournent dans un tourbillon de paroles, de sens. Je crois que c'est presque une sensation physique. J'espère. Pour moi, c'était, en écrivant, une grande expérience totale. Et j'espère pour le lecteur aussi.
Est-ce que vous pourriez nous décrire justement ce phénomène de danse dont vous parlez quand vous écriviez ou depuis alors la pièce de musique c'est beaucoup plus intelligible puisque on voit une partition effectivement des signes mais la danse c'est autre chose.
Oui le mouvement humain comme ça c'est très beau. Ça me touche toujours quand je vois des bons danseurs dansent bien. Pour moi, la musique, c'est l'art le plus important, l'art qui nous touche le plus profondément, qui peut changer une dépression dans une sorte de joie, ou le contraire. Et puis, le danse, c'est l'actualisation de la musique dans le corps humain. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Vous trouvez donc la musique supérieure à la littérature en termes artistiques, en termes de puissance?
Non, c'est comme plus fondamental, je crois. Je crois que la littérature sort de la musique. Et c'est comme il y a des parties du cerveau différentes. Il y a des lieux très anciens et les lieux plus récents dans l'évolution humaine. Je crois que la musique est dans les parties les plus anciennes.
Reptilienne.
Oui, presque.
Comme on dit.
Et que la littérature.
Faudrait demander à Siri Husvet. Elle connaît bien les neurosciences.
Je connais tout ça à cause de Siri. Voilà. Je lis ses essais sur ça. Et the prefrontal cortex, je ne sais pas comment on dit ça.
Le cortex préfrontal.
Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est plus récent. Et je crois que la langue écrite vient de ça.
Et de la musique, d'ailleurs, les aides, dans l'Antiquité, l'accompagnement. Oui. Quand vous dites, j'écris ça presque comme une improvisation, au fond, comme une danse, en fait. Qui danse? Ce sont vos personnages? C'est votre corps d'écrivain? C'est les synapses de votre cerveau qui scintillent?
C'est mon esprit qui danse. Oui. Et qui essaie de traduire cette danse en paroles, en mots, sur la page. Et c'était tout naturel. C'était pas une décision consciente. Mais en réflexion, je peux dire que pour soutenir un livre de si long, il fallait une sorte d'accélération de narration. Et je crois dans ce tourbillon, peut-être, on peut arriver à faire... Et maintenir l'intérêt au long terme, parce que on plonge là-dedans. C'est comme entrer dans l'océan comme lecteur. Et si vous décontractez et ne luttez pas contre les vagues, vous pouvez flotter.
Est-ce que vous accepteriez finalement l'idée très ancienne d'inspiration, ou même les auteurs de l'Antiquité parlaient d'enthousiasme, c'est-à-dire c'est les dieux qui entrent en vous et qui vous mettent en danse, qui vous mettent en transe. L'idée d'inspiration, vous la revendiquez?
Non, pas vraiment. Non. C'est beaucoup de travail. Mais il faut laisser jouer aussi l'inconscient. Ouais. Et je crois que chaque livre, chaque poème vient de là. Mais puis, il faut le travail très précis de la conscience aussi.
Mais après l'inconscient.
Oui. D'abord l'inconscient, puis conscient.
Et comment fait un écrivain pour s'adresser à son inconscient?
De se laisser ouvert, c'est la seule manière.
Ça, c'est facile à dire, Paul Auster, laisser ouvert...
Non, mais il ne faut pas lutter contre les pensées qui entrent dans la tête. Ouais. Et c'est une question des muscles. Laissez passer la tension dans le corps, et ça vous aide. Ouais. À trouver les choses.
C'est pour ça que vous parlez toujours de la solitude, c'est même le titre d'un de vos livres, L'invention de la solitude. C'est cet état de solitude qui permet justement d'entrer dans l'océan dont vous parliez pour convoquer les personnages, pour les faire leur connaissance.
Non, mais ce titre, L'invention de la solitude, c'est surtout dans la deuxième partie de ce livre, le livre de mémoire. Je crois que ce que je constate dans ce livre, c'est quand on est seul, on n'est pas seul. On est habité par les autres, les voix des autres et les souvenirs. Et c'est pour ça, ce livre sur la solitude, c'est un œuvre collective. Et je cite beaucoup d'écrivains, d'autres penseurs avant moi, qui sont avec moi. Par exemple, l'idée de dire « je suis seul », ça vient du langage. Alors, on ne vante pas langage seul, c'est quelque chose qu'on apprend à cause des autres. Et nous sommes tous connectés, tous les gens. Et même seul, on n'est pas seul. Physiquement peut-être, mais pas dans l'esprit.
Et vous acceptez que le lecteur aussi vienne avec ses propres écrivains aussi, comme je l'ai fait pour Borges tout à l'heure.
Mais là, L'invention de la solitude, c'est pas un roman. Hein.
C'est un souvenir, c'est oui, votre autre
c'est
veine.
Autobiographique. Alors c'est autre chose. Là, vous parlez de les citations des écrivains dans ce roman.
On va en parler.
Oui, mais là, c'est tous les quatre Ferguson vers l'écriture, d'une manière ou d'une autre. Alors, ils lisent beaucoup, et ils sont tous très sensibles à la musique, et ils jouent tous les quatre au sport, ils aiment ça, ils sont assez doués à faire ça. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous les quatre sont des garçons énormément précoces. Ils peuvent faire des choses à un très jeune âge que la plupart des personnes ne peuvent pas. Et moi, je n'étais pas précoce.
Ça a été laborieux.
Oui, j'étais un garçon plus ou moins, je ne sais pas ce que ça veut dire, normal. J'avançais pas trop vite et pas trop lentement. C'était dans le moyen, mais ces quatre sont des phénomènes.
Vous citez beaucoup de poèmes dans 4-3-2-1. Vous avez traduit beaucoup d'ailleurs de poésie dans votre jeunesse.
Oui.
D'ailleurs, je pensais à un autre poète, je pensais à Mallarmé.
Oui.
Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, parce qu'il est question de hasard, il est question de coïncidence, de circonstances, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque on fait un choix, mais parfois les choix nous sont dictés par les conditions. Dans quelle mesure pensez-vous que cette activité de traduction, puisque vous disiez j'étais pas précoce, vous a donné peut-être des clés pour l'écriture? Ezra Pound recommandait.
Oui, c'est ça. Et il faut dire que je n'aurais jamais pensé à traduire quand j'étais jeune, si je n'avais pas mon oncle, qui était le mari de la sœur de ma mère, un homme qui s'appelait Aaron Mandelbaum. C'était un homme extraordinairement brillant, qui a gagné son PhD à 20 ans, c'est inouï, hein, qui parlait qui parlait 9 langues, qui a traduit des poètes italiens du 20e siècle, mais plus important, Dante, Virgile, Ovide et Homère. L'Odyssée et la Commedia de Dante. Dans les trois volumes. Et des traductions magnifiques. Alors, son exemple m'a donné l'idée, bon, pourquoi pas essayer de traduire. Pour moi, la langue était français, pas italien. Et j'ai découvert que c'était un très bon exercice pour un jeune écrivain. Parce que, d'abord, vous prenez des bons poèmes, des poèmes beaucoup plus supérieurs à ce que vous, à cette époque, êtes capable d'écrire. Et comme ça, vous apprenez comment un bon poème fonctionne. Et puis, il y a cette joie d'exprimer. Mais il n'y a pas des pressions d'être brillant original. C'est simplement de recréer quelque chose. Je crois que c'est un très bon exercice pour les jeunes. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup. Et aussi, ça vous donne une sorte d'habitude d'écrire. L'habitude de porter un stylo dans votre main, comme une chose tout à fait naturelle.
On sent, c'est toujours le physique et le geste, en fait, hein, qui compte pour vous. Vous parliez tout à l'heure du corps, de la danse, la façon de tenir le stylo. Le corps est fondamental pour votre activité d'écrivain.
Oui, pour moi. Peut-être Pour les autres, moins, je ne sais
oui,
pas.
Oui, mais c'est avec vous que je discute, oui, donc oui, oui. Je vous demande.
Oui.
Vous parliez de musique, Paul Auster, on va en écouter. On va écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi Les Barricades Mystérieuses de Couperin.
Ah,
c'est,
oui.
c'est une version au piano interprétée par David Grelzamer. On écoute et puis vous nous dites pourquoi vous avez choisi okay. ce titre.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Les Barricades Mystérieuses de Couperin, interprétées par David Grelzamer, c'est le premier choix musical de Paul Auster, avec qui nous passons cette heure. Pourquoi ce choix musical, Paul Auster?
D'abord, je trouve cette petite pièce très très belle. Et aussi, j'ai lu que c'est une pièce où il n'y a qu'une note qui est touchée, il n'y a jamais deux notes touchées à la fois. Et c'est une sorte de miracle parce qu'on n'y pense pas quand on écoute. Et je crois qu'il y a une progression très stimulante et à la fois satisfaisante aussi. C'est comme, j'écoute cette pièce et c'est comme on remplit un verre d'eau. L'eau monte. Et il y a un moment où finalement ça déborde le verre. Et c'est comme ça... une chose dans la musique qui plaît beaucoup. Oui.
Est-ce que pour accéder à votre inconscient d'écrivain, on le disait tout à l'heure en première partie, il faut faire parler l'inconscient, après il y a la conscience, mais d'abord essayer de toucher son propre inconscient. Est-ce que la musique joue un rôle? Est-ce que avant d'écrire, quand vous êtes dans cet état de solitude, vous mettez de la musique ou
non,
au contraire?
Voilà. Jamais, c'est voilà. Le contraire. Je ne peux pas écrire sûrement avec la musique, mais je crois qu'il y a des écrivains qui aiment faire ça. Moi, non, parce que la musique que j'entends, c'est la musique des mots. Et quand j'entends la musique, je veux vraiment faire que ça. Je n'aime pas la musique dans l'arrière-fond. Si on écoute, on écoute. Et comme ça, on peut apprécier mieux. On retourne à la musique toujours, mais c'est fondamental.
Alors 4-3-2-1, c'est un audacieux pari romanesque que vous faites, hein, 1019 pages, une succession de 4 récits qui relatent les différentes vies qu'un personnage en fait peut avoir. Il s'appelle Archie Ferguson. Chacun des Ferguson vit dans une banlieue différente du New Jersey. Ils vont être tous amoureux de la même femme. Il y a d'autres personnages latéraux, périphériques qui vont se retrouver d'une histoire à l'autre. Et c'est un véritable roman de formation aussi ce livre, et l'occasion de revenir sur des pages de l'histoire américaine des années 60-70, puisque l'histoire est située entre, en gros, l'assassinat de Kennedy et la chute de Nixon, dans une Amérique où la question raciale et la guerre guerre du Vietnam divise le pays. Est-ce que c'est aussi ce livre une tentative, Paul Auster, pour réfléchir à ce qu'est, dans la littérature, un personnage, de redéfinir la notion de personnage?
Mais c'est plutôt la question, qu'est-ce que c'est une personne? Oui, pas personnage dans un livre, mais qu'est-ce que c'est une personne? On est le résultat, d'abord, de nos parents, mais tout de suite aussi, on est le résultat de la culture dans laquelle on vit, le temps dans lequel on vit, les circonstances dans lesquelles on vit. Pour donner un exemple très extrême, pour faire le point ici, si on est, par exemple, une jeune fille de 7 ans, très douée, très intelligente, avec un avenir plein de promesses, et un jour, une armée d'un autre pays occupe votre ville et les bombes commencent à tomber et vous voyez votre mère et votre père tués par les bombes et votre maison est en ruine, vous n'avez pas assez de manger. Pendant 3 ans, vous vivez ça, dans cette guerre horrible. Après, à 10 ans, vous serez quelqu'un très différent que la petite fille qui n'avait pas vécu cette guerre. Et ça va changer tout le chemin de cette vie. Et peut-être les promesses qui étaient là ne sont pas réalisées à cause de ces circonstances. Ça, c'est l'extrême. Mais on peut le faire de plus en plus finement, hein, pour arriver à des nuances subtiles, mais aussi très importantes.
Quand je vous demandais, est-ce que c'est une tentative de réfléchir à la notion de personnage, vous m'avez répondu, non, de réfléchir à qu'est-ce qu'une personne, quelle différence vous faites? Parce que je me souviens d'Umberto Eco disant que quand Anna Karenine est morte dans le livre qu'il lisait, oui, il était totalement effondré, comme si c'était sa tante qui, oui, était morte. Donc quelle différence vous faites entre une personne et un personnage? Est-ce que les personnages ne deviennent pas, pour le lecteur, de véritables personnes?
Non, mais ça, c'est la magie de la littérature, c'est pourquoi on lit, parce qu'on a les liens émotionnels avec les personnages dans le livre. Mais je pose une question extra-littéraire aussi. Qu'est-ce que c'est une personne? Bon, la seule manière, dans un roman, on a pour exprimer ça, c'est avec les personnages.
Exactement, oui, donc ça revient au même.
Oui. Oui.
Alors, il y a beaucoup de violence hein, aussi dans ce livre. Il y a cette scène aussi fondatrice du camp d'été où le personnage voit l'un de ses amis, oui, foudroyé, frappé, oui, par la foudre. Oui. Ça, c'est une scène dont vous avez beaucoup parlé, qui est une scène aussi qui est tirée de votre propre biographie,
oui, Paul Auster. J'ai changé les faits, mais ça, c'est le noyau du autobiographique de ce roman. Et je crois vos écouteurs peut-être savent cette histoire déjà, parce, exactement, que je l'ai écrit dans le carnet,
exactement,
rouge. C'est que j'étais 2 centimètres d'un garçon quand j'avais 14 ans qui était tué par la foudre. Et cet événement m'a changé, tout à fait.
Ça, c'est le noyau, hein. C'est vraiment le noyau. Oui. Vous pensez de votre conception du monde aussi, et même de votre conception de la,
oui,
littérature que vous avez,
oui,
envie de faire?
C'est bien possible. Je crois, ce jour-là, j'ai appris que n'importe quoi peut se passer à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et que le monde était très, très instable. Jusque-là, je croyais que je marchais sur un terrain assez solide. Mais après, non. Alors, je raconte l'histoire 2 fois dans le livre. D'abord, dans un orage qui tue quelqu'un, très important au livre. Mais plus tard, un autre Ferguson éprouve l'expérience de voir son très bon ami tomber mort à l'âge de 14 ans. Pas dans un orage, mais avec à cause d'une aneurysme cérébral.
Rupture d'anévrisme.
Oui. Et ça lui change. Il est si malheureux à cause de ça, et si troublé, qu'il change sa vie dans une certaine manière de deuil pour l'ami. Alors, il renonce aux choses qu'il aime beaucoup pour ne pas oublier son ami. Il devient un peu fou, je crois. Ce 4e Ferguson, c'est le garçon qui veut être écrivain est vraiment malade pendant sa jeunesse à cause de cette expérience. Je crois, plus tard, il en sort un peu, mais seulement en confrontant cet épisode. Et moi, bien sûr, je l'ai écrit dans un petit essai non-fiction, les faits que j'ai éprouvés moi-même. Mais je crois, toujours, je voulais écrire un roman sur ça. Et donc, lober cette expérience dans un autre monde imaginaire. Et c'est ça, la chose de moi qui compte dans le livre. Les détails sont inventés.
Écrire, c'est englober une expérience dans un autre monde imaginaire. C'est
oui,
comme ça que vous venez
de... Oui, c'est peut-être ça.
Je disais, il y a beaucoup de violence dans ce roman, donc il y a cet épisode hein, sur la foudre, mais il y a aussi évidemment toute cette violence qui agite l'Amérique des années 60. Alors on connaît hein, les principaux points, hein, le Vietnam, la contestation étudiante, l'assassinat de JFK, mais on imagine difficilement, et quand on vous lit, on la comprend, d'autres aspects de cette violence. Par exemple, la violence de type terroriste et studentine. Il y a ce personnage qui s'appelle Melville, d'ailleurs,
ah oui,
comme l'auteur de Moby Dick, qui pose des bombes.
Personne.
C'est un vrai personnage,
oui,
bien
oui,
sûr.
Oui, oui, c'est The Mad Bomber.
Posait des bombes, en fait, dans les années 60.
Oui.
Alors, justement, j'ai une question à vous poser, Paul Auster, à ce sujet. Votre personnage, il s'appelle Ferguson.
Oui.
On comprend que ce nom lui a été donné en arrivant en Amérique, parce qu'il avait dit, en yiddish, quand on lui demandait son nom, Ishab Ferguson. J'ai oublié. Ferguson.
Oui.
Et du coup, c'est devenu Ishab Bud Ferguson.
Oui.
Est-ce que écrire, justement, n'est pas aussi faire un acte de mémoire, puisqu'il est question de mémoire, de type politique? Votre personnage dit Ishab Ferguson, et ça lui donne son nom.
C'est le grand-père
de
Archie. Oui.
Mais Paul Auster, lui, il convoque toute cette mémoire américaine, et je trouve qu'en ce moment où on a tendance à réécrire l'histoire, à réécrire la mémoire, quelqu'un dont vous ne dites jamais le nom, d'ailleurs, qui est à la tête de votre pays, que vous appelez...
45.
Oui, numéro 45, lui a tendance à réécrire aussi l'histoire des États-Unis. Et est-ce que écrire, justement, et ce livre-là en particulier, n'est pas aussi convoquer une mémoire, presque de façon politique aussi, de faire presque un travail d'historien à travers le travail de romancier?
Si vous prenez attention, un lecteur prend attention, il verra que la plupart des remarques sur la politique de l'époque, c'est dans le premier cycle de Ferguson, Ferguson 1. Le jeune homme qui vient devient journaliste. Et lui, c'est quelqu'un qui fait attention. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est lui qui est amoureux de Amy Ferguson, qui est activiste de gauche sur le mouvement des étudiants à l'époque.
Mais là, vous me répondez via votre personnage.
Oui.
Le père de votre personnage, c'est quand même vous, Paul Auster. Vous choisissez de rappeler ces événements, de montrer que le Vietnam est lié aussi aux droits civiques, par exemple.
Vous
faites le lien. Ça, est-ce que c'est un geste aussi politique de la part du romancier?
Oui, peut-être, c'est sûrement un geste historique de comprendre, d'essayer de comprendre une période. Et je crois que ça prend beaucoup de temps avant qu'on peut vraiment regarder. Alors, je raconte les choses qui se déroulaient il y a 50 ans. Mais c'est intéressant de voir que un autre long livre, roman, La guerre et la paix de Tolstoï aussi raconte les choses qui s'était déroulé il y a 50 ans. Ça prend beaucoup de temps et de recul pour voir ce qui s'est passé. Quand on vit les choses, c'est très difficile à savoir ce qui est important et non. Et ça prend du temps.
C'est pour ça que je disais que peut-être quand on a la distance de celui qui écrit, on peut remettre les choses dans un premier plan ou dans un second plan.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Oui.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui, je vous le dis, qui m'a un peu troublé, même un peu énervé, Paul Auster. Donc je me suis dit, si je suis en face de lui, je lui poserai la question. Ferguson 4, il dit, si le monde est en flamme, à quoi bon écrire de la fiction? Et pourtant, quand il parle de Dostoïevski, je le cite, il se passe ça. La lecture de Crime et Châtiment le transforma. Crime et Châtiment fut l'éclair tombé du ciel qui le fracassa en mille morceaux. Et quand il parvint à s'en remettre, il ne subsistait plus chez Ferguson le moindre doute quant à son avenir. Si un livre pouvait être cela, si c'était cela l'effet qu'un roman pouvait provoquer dans le cœur, l'esprit et la vision la plus intime qu'on pouvait avoir du monde, alors écrire des romans était certainement la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie, car Dostoïevski lui avait montré que les histoires imaginaires pouvaient aller bien au-delà du plaisir et du divertissement, qu'elles pouvaient vous retourner complètement, vous arracher le sommet du crâne, vous ébouillanter, vous frigorifier, vous déshabiller et vous jeter dehors, nu, en proie au vent violent de l'univers. Et j'ai cité Dostoïevski, mais j'aurais pu citer le passage sur Thoreau, dont vous, vous parlez aussi. J'aurais pu citer Edgar Poe, qui l'a conseillé un jour à un écrivain en herbe. Soyez audacieux, lisez beaucoup, écrivez beaucoup, publiez peu, tenez-vous à l'écart des petits esprits et n'ayez peur de rien. Donc je n'arrive pas à comprendre, Paul Auster, comment, quand j'entends vos interviews, vous dites la littérature est sortie du jeu aujourd'hui, c'est la télévision. Et en fait, votre livre me parle, parce qu'il me rappelle aussi tous les souvenirs, et tous vos lecteurs, de ce que provoque un livre, qui change votre vie, qui même politiquement vous construit.
Oui, mais il faut savoir que Ferguson a 15 ans qu'il éprouve ça, et 16 ans. Mais là, il a 20 ans, 21 ans, quand le monde est en flamme. Et il est déchiré par ça. Il questionne son enthousiasme pour ce métier parce que le monde presse sur lui d'une manière que n'était pas le cas quand il avait 15 ans. Il a découvert la littérature sublime comme ça qui peut vous transformer. Alors, il développe, il a une approche plus tard, c'est plus sophistiqué, plus nuancé. Avec des contradictions. Bien sûr, il a raison les deux fois, mais c'est une évolution de pensée. Les gens, l'humanité, ont un besoin des histoires. On ne peut pas imaginer la vie sans histoire imaginaire. Roman, ou film, ou télévision, ou bande dessinée, n'importe quelle manière, mais on a besoin de ça. Même pendant les guerres les plus cruelles. Et je crois que finalement, Ferguson arrive à ce point de vue, mais c'est une lutte. C'est pas facile.
On a l'impression parfois aussi, quand on vous lit, que vous vous méfiez de la dimension politique du roman.
Non, je veux dire que les romans ne changent pas le monde actuel. Un livre ne peut pas arrêter une balle de tuer quelqu'un. Un roman ne peut pas arrêter une bombe de tomber sur une ville. Un livre ne peut pas nourrir un enfant qui n'a pas assez de manger. Il n'y a pas des conséquences pratiques de lire un roman ou d'écrire un roman. Mais il y a d'autres bénéfices. Et je ne nie pas ces autres bénéfices. C'est quelque chose qui nourrit d'abord notre faim pour les histoires. Et dans les grands romans, comme vous dites, Umberto Eco pleurait quand Anna Karenina est morte. Ça, c'est une chose très importante. Ce que le roman fait, et c'est quelque chose sur lequel j'ai dédié toute ma vie, l'acte d'écrire un roman, c'est un acte politique en soi. Pas directement, mais le roman, c'est une forme de littérature assez récente qui ne parle pas des héros, ou des rois, ou des grands personnages, mais des gens soi-disant ordinaires, comme vous et moi. Et ça pose une vérité que chaque vie vaut le temps de l'étudier. Même si la personne est un voleur et un menteur, ou quelqu'un qui lutte pour être une personne morale. Tout est intéressant et l'idée que chaque vie compte, que chaque personne a une vie intérieure aussi valable que la mienne, veut dire que le roman vous enseigne, je crois, ou vous donne l'occasion de pénétrer dans les âmes et les esprits des autres. Et ça nous lie comme une sorte humanité en commun. Et je crois que ça, c'est la gloire de ce genre d'écriture, le roman, qui est une forme très flexible. On peut faire n'importe quoi. Si on raconte une histoire, c'est un roman. Un roman peut avoir 100 pages ou 10 000 pages.
Ça n'arrête pas une balle, mais ça peut changer une mentalité.
Exactement. Ça peut changer. Exactement. Mais quand on est dans un camp de concentration, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le droit de lire, et d'autres choses plus élémentaires s'imposent. Et la triste vérité, c'est que l'histoire de notre temps, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des circonstances comme ça, où la lecture n'était pas possible.
Hélas.
Hélas, oui, bien sûr.
Et souvent même interdite.
Oui, exactement.
Alors, précisément, vous nous disiez que la littérature permet à quelqu'un de comprendre les sentiments d'un autre quelqu'un, ordinaire comme lui. Vous parlez beaucoup de la violence raciale dans ce livre. Est-ce que on n'assiste pas aujourd'hui à un phénomène un petit peu curieux, et particulièrement aux États-Unis, mais ça arrive en France? On a l'impression que les gens, aujourd'hui, ne peuvent écrire que s'ils sont directement concernés. On a l'impression que, par exemple, Mark Twain ne pourrait plus, aujourd'hui, avoir le droit d'écrire Huckleberry Finn parce qu'il n'était pas concerné.
Ni noir, ni vagabond.
Exactement. Oui, oui. Et je pense, par exemple, à Kathryn Bigelow, qui a fait ce film Detroit, sur les événements de Détroit, qui a pris, en fait, une volée de reproches, parce que, justement, elle était blanche et elle n'avait pas le droit de... Est-ce que vous allez vous retrouver dans cette situation en tant que blanc de Brooklyn?
Je suis horrifié par ces propositions, the politically correct approach à l'art en général. Il y avait un grand débat sur une peinture aussi, d'un Emmett Till, le noir qui a été tué dans les années 50 par les racistes du Sud. Elle, une femme blanche, une peintre blanche, a fait un portrait de lui, et tous les artistes noirs aux États-Unis l'attaquaient. Non, comme ça, Tolstoï ne pourrait pas écrire Anna Karenina non plus, parce qu'il n'était pas une femme. Mais c'est ridicule.
Et Picasso n'aurait pas fait Guernica, parce qu'il n'était pas basque.
Exactement, non, c'est ridicule. L'art est quelque chose qui nourrit l'imagination, et l'imagination nourrit les esprits des autres. Et s'il y a des limites, on ne fait pas l'art, on fait une sorte de polémique, et c'est pas intéressant.
Comment vous voyez l'avenir, justement, pour l'art? Parce qu'il y a ça, il y a un personnage aussi, d'ailleurs de vos livres précédents, qui disait bientôt sourire ou regarder une femme dans la rue.
Voilà. Dans le film Smoke.
Voilà, c'était dans l'un de vos films, exactement. Oui, pas un livre, mais un film.
Oggy dit ça.
Est-ce que quand même, il n'y a pas, comme on dit en français, péril en la demeure, quoi, l'incendie dans la maison, pour tous les artistes qui, aujourd'hui, se voient quand même très exposés, parce que sur le sexe, sur tout ce qui concerne les conflits raciaux, ils n'ont plus le droit tellement d'en parler.
Non, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est la position, j'imagine, de la gauche. Et à la droite, il y a l'inverse, avec une continuation du racisme. C'est affreux. Et il y a ces deux côté dans la société américaine maintenant, qui existe au même temps, mais qui ne se parle pas.
C'est-à-dire racisme total, néo-presque esclavagisme du côté de la droite, et puis politiquement correct du côté de la gauche.
C'est ça, c'est ça.
Et vous êtes au milieu.
Non, je dis merde à tous les deux.
Je vous cite quand même, parce que quand vous parlez justement de ces conflits, vous le faites très très bien, Paul Auster. La police de New York tira à balles réelles au-dessus de la tête des gens qui se tenaient sur les toits et leur lançaient des pierres et des ordures dans les rues. Ce n'étaient pas les lances à incendie ou les chiens qui servaient dans le sud à disperser les manifestations des Noirs. Non, des balles réelles. Et Amy pleura, non parce qu'elle avait fini par comprendre que le racisme était aussi fort au nord qu'au sud, aussi fort dans sa propre ville, mais parce qu'elle comprenait aussi que son idéalisme naïf était mort, que son rêve d'une Amérique indifférente aux couleurs où noir et blanc vivraient ensemble, solidaires, n'était plus qu'un vœu pieux, stupide. C'est votre aussi votre conception, Paul Auster, sur l'Amérique qui vient?
Ça m'attriste tellement. C'est difficile de l'exprimer, la tristesse que je ressens sur ce sujet. Et moi, j'étais comme jeune, comme Amy. Je rêvais d'une autre sorte de pays où ces questions de couleur ne compteraient pas. Et le fait que ça continue à nous déchirer. C'est vraiment une des faits de la vie américaine la plus angoissante.
Est-ce que un écrivain n'écrit pas aussi pour inventer d'autres réalités que celles que la vie nous fournit? On parle beaucoup de faits alternatifs en ce moment. Fake news, oui, faits alternatifs. Oui. Est-ce que finalement, l'écrivain, c'est pas celui aussi qui fait des alternative realities, qui serait un contrepoison?
Oui, mais pas pour mentir. C'est pour dire une autre sorte de vérité. Mais là, la personne qui a dit ça, elle défendait vraiment le mensonge comme une stratégie politique. Ça, c'était un peu déconcertant. Mais non, bien sûr, les écrivains inventent, les peintres inventent, les cinéastes inventent des mondes irréels qui peuvent nous dire quelque chose sur nos vies.
On vous connaît aussi comme réalisateur hein, de films, Paul Auster. D'ailleurs, ce que je citais tout à l'heure, c'était, hein,
oui, oui.
C'était dans Smoke,
oui,
effectivement,
oui, oui,
et pas
oui.
dans un de vos romans.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous apportait, en fait, le cinéma en tant que romancier, en termes de nouvelles écritures, d'autres écritures?
Ah, pour moi, c'était la grande aventure. J'ai toujours adoré les films. Et quand j'avais l'occasion, l'opportunité de me mêler dans cette profession, ce métier, j'avais 47 ans. Alors, d'abord, c'est rare que quelqu'un de cet âge peut apprendre une nouvelle chose dans la vie. Et une chose que j'ai toujours admirée, c'est une autre manière de raconter. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé sur 4 films en total. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe. On fait un film avec beaucoup de gens. Et ça m'a rappeler de ma jeunesse quand je jouais aux équipes de sport. C'est la même sorte de chose. Un groupe de personnes qui essaient ensemble de faire une chose. Et c'était, je crois, moralement, c'était bien pour moi. Et aussi, les 2 films où j'étais metteur en scène seul, ça m'a appris beaucoup aussi comment agir avec les gens et comment gagner leur confiance avec une manière d'agir juste.
Vous allez y revenir au cinéma?
Qui sait? Je crois pas, mais peut-être on verra.
C'est une autre danse en tout cas. On
oui,
fait danser
oui.
les gens,
oui,
parce que vous parliez de
oui.
la danse, différemment.
Le problème avec le cinéma, c'est un mot, l'argent. Et on peut écrire un livre pour rien, mais pour faire un film, il faut trouver l'argent. Et ça, c'est une autre difficulté.
Dernière question, Paul Auster, peut-être plus personnelle. Vous êtes l'un des écrivains, sinon l'écrivain de New York. Dans cette ville, il y avait plusieurs possibilités de vie. Vous avez rencontré votre femme, Siri Husvedt, qui est écrivain aussi, dans des circonstances assez improbables, une lecture de poésie. Je ne vais pas revenir sur les détails. Mais est-ce que parfois, c'est ma question un peu 4-3-2-1, est-ce que parfois il vous arrive de réfléchir à ce qu'aurait été Paul Auster 2, 3 ou 4 s'il n'avait pas rencontré Siri Husvedt?
Ah oui, mais je crois que mon premier roman, Cité de Verre, dans la trilogie, posait exactement cette question. Si je n'avais pas rencontré Siri, quoi? Ouais, peut-être je serais Quinn, ce triste personnage du livre qui a perdu tout. Hein.
Merci Paul Auster.
Merci.
On écoute, avant de se quitter, votre dernier choix musical. Alors, c'est un titre de votre fille, Sophie Auster.
Oui.
Voilà, donc votre fille, donc...
Oui.
Qui compose,
qui chante, et elle a une très belle voix. Et ça vient d'un disque qui est sorti peut-être 3 ou 4 ans. Elle a terminé un autre album maintenant. Mais je crois qu'il y a un ton qui convient à une sorte de discussion comme on avait eu.
C'est-à-dire
aujourd'hui. Une sorte de ton de réflexion.
Très bien, alors réfléchissons avec Sophie Auster. Merci beaucoup, je rappelle le titre de votre ouvrage, Paul Auster, 4-3-2-1, c'est chez Actes Sud et c'est traduit par Gérard Medal. On écoute Sophie Auster, merci.
Merci.
Cunning way to stoop so low.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec Sophie Marty, Anne-Laure Chanel à la réalisation, prise de son Sandrine Malon, au mixage Pascal Bénard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, tweeter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr, cette émission avec Paul Auster. Before